Merci beaucoup, Paul. C'est vrai que c'est très émouvant toujours de revenir ici. On a un sentiment un petit peu de revenir un peu à la maison mère à chaque fois. C'est un régal. On est tellement reconnaissant de partager aussi la même aventure pour le même service du même évangile ailleurs dans Paris. Et aujourd'hui, avec la toute jeune église Saint-Lazare, on fêtait notre 100e culte. Alors on a mis des ballons, 100. C'était émouvant, mais on est aussi reconnaissant de savoir que aussi on existe en tant qu'église grâce au partenariat qui existe avec l'église de Sèvres, comme avec d'autres églises, et on est reconnaissant de pouvoir vivre ces temps ensemble d'une manière particulière. Je vous invite à, si vous l'avez gardée ouverte à la lettre aux Colossiens, c'est bien, mais sinon à rouvrir vos Bibles à la lettre aux Colossiens, parce que à l'endroit où Paul nous a lu un extrait, c'est donc la page 1337 des Bibles d'Église, page 1337 pour ceux qui ont cette Bible bleue. Mais il me semble que ouais, c'est utile, comme en particulier c'est le début de cette lettre de Paul aux Colossiens, avant que Noémie vienne nous faire la lecture, de réfléchir un petit peu sur le contexte de cette lettre, pour qu'on puisse savourer les quelques 12 premiers versets que Paul écrit à cette vieille église, mais qui a des points communs avec nous. Ça, c'est un petit peu le titre qu'on s'est dit avec Joe, mon collaborateur. Ça pourrait bien résumer l'ensemble du message de l'épître de Paul aux Colossiens. On est comblé. Le point d'interrogation, il est tout simple. C'est parce qu'on est dans une société où, alors je ne sais pas si vous considériez comme quelqu'un de comblé, particulièrement en ce moment, mais c'est clair que, je ne sais pas si dans tous les domaines vous cherchez, vous pensez être comblé, vous cherchez à être comblé, je suis sûr qu'au-dessus de votre tête, il y a différentes images qui vous disent « là, j'aimerais bien en avoir plus » ou « accéder à cette plénitude de vie, alors vraiment, je pense que je serais heureux ». Mais c'est clair que dans chacun de ces domaines de la vie quotidienne, on aimerait arriver à un état de plénitude, à un état un sentiment d'être comblé pour ne plus avoir à chercher, pour ne plus avoir soif. C'est en nous. C'est en chacun de nous, et qu'on soit chrétien ou qu'on se présente comme quelqu'un de pas chrétien, athée ou d'une autre religion, on a tous en nous ce soupir. La preuve, c'est que quand on regarde les pubs, souvent, ça surfe sur l'idée de « on peut vous combler ». Alors j'ai mis quelques exemples là. La meilleure des publicités est un client satisfait, ça c'est Bill Gates qui l'avait dit un jour. L'idée qu'on puisse combler les attentes de nos clients, ça c'est vraiment excellent. Donc du coup on dit vous pourriez être 100% satisfait avec nous. Si les pubs surfent sur cette vague-là, ça veut dire qu'en nous il y a cette attente. En nous on aimerait être comblé d'une manière ou d'une autre. Et puis même au niveau spirituel, ça c'est juste quelques extraits où j'ai tapé juste comblé plénitude sur Amazon pour pas faire de pub, et voilà ce qu'on trouve. Fais ce qu'il te plaît pour bien t'épanouir, petite philosophie du bien-être, la puissance de la pensée positive pour réussir votre vie, pour être rempli. Même si on recherche pas des choses matérielles, on a quand même un désir d'être comblé au-delà des choses matérielles. Dans notre cœur, dans notre vie, on a ces aspirations-là. La preuve, c'est que les religions et les spiritualités du monde marchent, fonctionnent. Et la preuve, c'est que ça fonctionne, ça accroche quelque chose dans notre cœur. Et enfin, c'est aussi ce que proposent les systèmes religieux plus précisément et plus proches de nous aussi. Avec les lunettes en bas, c'est... nous, on aurait les moyens, dans notre église, de vous proposer des précisions tellement, tellement érudites sur la Bible que vous allez voir, vous ne voudriez pas aller voir ailleurs. Dans d'autres églises, c'est chez nous, on loue comme chez personne ailleurs. Et quand vous viendrez, vous n'aurez plus envie d'aller voir ailleurs, parce que c'est vraiment l'endroit où vous serez comblé dans votre être intérieur. D'autres endroits, au niveau plus rituel catholique, c'est quand vous aurez goûté au rituel et à toutes les pompes du culte et de la messe, vous ne pourrez pas aller voir ailleurs, tellement vous aurez l'impression que le Christ lui-même est présent dans ce moment-là. Alors, je pourrais continuer encore, mais tout ça pour dire que lorsqu'on se pose la question « est-ce que je suis comblé ?» ou « est-ce que je cherche dans quels endroits et à quel niveau de ma vie je cherche à être comblé ?» en fait, on constate qu'il y a des ressorts en nous qui ont cette volonté-là. On pourrait avoir tendance... que se dire bien sûr que tout le monde veut cela, et en fait il se trouve que il y a de fortes chances que les premiers lecteurs de Paul, c'est-à-dire l'église de Colosse, étaient en danger parce qu'on leur présentait différentes... Alors, je ne sais pas si c'était ça, ce n'est pas des photos d'époque, mais peut-être qu'on leur présentait des différentes spiritualités et philosophies de l'époque du 1er siècle qui étaient très alléchantes, en particulier alléchantes pour des chrétiens zélés. Les chrétiens qui sont le plus en danger, en fait, ce sont les chrétiens zélés qui en veulent plus. Et quand on en veut plus, on est prêt à boire un peu, à manger à tous les râteliers. Et en fait, Paul écrit cette lettre pour montrer, et merci Paul, parce que tu nous as, ce Paul-là, tu nous as bien préparé à montrer que, en fait, Jésus suffit. Et que quand bien même il nous manquerait beaucoup de choses dans la vie, que ce soit au niveau matériel, au niveau spirituel, au niveau relationnel, au niveau même religieux, quand on a Jésus, le Jésus de la Bible, on a tout ce qu'il nous faut. Regardez, feuilletez juste un petit peu plus loin dans le chapitre 2, c'est le gros numéro 2. Et regardez ce que Paul leur dit et qui nous dit finalement aussi à nous à travers l'Écriture, verset 10 de ce chapitre. Page 13-39. Paul leur dit, vous avez tout pleinement en lui, en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Pourquoi est-ce qu'il dit, vous avez tout pleinement, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs? Parce que, regardez le verset qui précède, verset 9, pourquoi est-ce que vous avez tout pleinement en lui? Parce que, verset 9, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout ce que Dieu est, dans sa sainteté, sa grandeur, son amour, son éternité, sa pureté, sa justice, tout ce que Dieu est habite pleinement en Jésus-Christ, dans son corps. Ça veut dire que quand on a Jésus, on a Dieu lui-même. Et quand on a Jésus, on est comblé. Et l'invitation centrale, et après je vous rassure, on va passer à la lecture, mais l'invitation centrale de cette lettre, qui va nous faire comprendre pourquoi Paul commence comme il va commencer, c'est les versets 6 et 7 de ce même chapitre 2. Si vous avez tout pleinement en Christ, si en lui habite pleinement toute la plénitude de la divinité, alors, verset 6, comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, c'est-à-dire persévérez, ne vous décollez pas de lui, soyez enracinés, verset 7, fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Mais bien sûr, la caractéristique des hommes et des femmes qui ont compris qu'ils ont tout pleinement en Christ, c'est aussi la reconnaissance. Je suis reconnaissant parce que je n'ai plus besoin d'aller chercher ailleurs. On va laisser Noémie, s'il veut bien me rejoindre, lire les premiers 12 versets et voir comment Paul commence. Alors on va tout simplement te laisser lire et... pour faire la suite à ce que Paul a prié avant, on prie que le Seigneur éclaire nos cœurs et nous prépare à comprendre ce texte.
Merci. Bonjour, bonsoir. Je suis juste désolée si ma voix est un peu enrouée, j'ai été malade cette semaine. Alors je vous invite à lire Colossiens 1, les versets 1 à 12, page 1337. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et du frère Timothée aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen.
Merci beaucoup, Noémie. Amen. Oui, c'est ici que s'arrête notre lecture du texte, mais on veut méditer maintenant ces quelques versets pour essayer de les reprendre avec nous à partir de maintenant. Imaginons, on a parlé de différentes églises, imaginons deux églises dans la même ville, mais qui ont deux croissances vraiment différentes. Une est une église toute petite et très ancienne et qui manifeste une croissance en nombre notamment pas très grande. Depuis les 10 dernières années, il y a eu juste 3 conversions. Et puis de l'autre côté, on a une église qui est plus jeune, qui est dynamique, qui a fait plus 100 personnes les 3 dernières années. Et alors, on pourrait se poser la question, et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous poser la question, quelle est la croissance qui est la plus juste ? Comment être sûr que l'une et l'autre, ou que les deux, ou que l'une ou l'autre, soit une croissance qui vient de Dieu ? Je pense que le critère, c'est tout simplement pas l'aspect sociologique de ces églises, le profil type de ces églises, le lieu où elles sont implantées, mais d'abord leur rapport à l'Évangile. Le critère, c'est l'Évangile. Et je pense que Paul commence comme cela pour les Colossiens en leur disant que la croissance qui vient de Dieu est une croissance de l'Évangile. Le titre qui pourrait rassembler un peu l'idée centrale de ce texte, ça pourrait être ça. L'Évangile, c'est un message tout suffisant. Tout suffisant pour deux choses. Il est d'abord suffisant pour croire, et c'est la première partie de notre message, de notre passage qui le montre. La deuxième chose pour laquelle l'Évangile est suffisant, c'est pour croître, pour grandir, pour tout en fait. Mais on commence d'abord par les premiers 8 versets, si vous voulez bien, où Paul nous montre, à la suite des Colossiens, que l'Évangile est un message tout suffisant pour croire. Vous avez remarqué qu'ils sont contents là, Paul et Timothée, à partir du début de ce passage. Ils sont remplis de reconnaissance, dit Paul, parce que l'Église, c'est une Église de Colosse qu'ils n'ont pas fondée, qu'ils n'ont pas rencontrée. Eh bien, c'est une Église qui manifeste pourtant des signes caractéristiques de l'espérance chrétienne. À la verticale, la foi dans le Christ. Et puis à l'horizontale, l'amour caractéristique du chrétien qui a été touché par la foi en Jésus-Christ et qu'il manifeste cet amour pour tous les saints. C'est-à-dire, littéralement, pour ceux qui partagent la même foi. Et on a l'impression, dans ces premiers versets, que Paul se comporte un petit peu comme un chercheur d'or dans un courant d'eau, avec, vous savez, les espèces de grands couvercles là où ils tournent, ils essaient de voir. Et quand il a un chercheur d'or comme ça à trouver les premières paillettes dans la rivière dans laquelle il se trouve, eh bien, il n'a qu'une envie, c'est de remonter un petit peu le courant pour voir d'où vient exactement le filon, d'où sort le filon, d'où viennent ces paillettes d'or. Et en fait, Paul est un peu un chercheur d'or là. Et voilà ce qu'il fait, si on suit sa logique, à partir du verset 4. Nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints. Oui, mais d'où ça vient ça? D'où ça vient? Paul remonte un peu et il voit et il manifeste et il leur dit, verset 5, que c'est à cause de l'espérance qui vous est réservée dans le ciel. Une espérance que Dieu donne, qu'il garantit comme dans un coffre-fort dans le ciel, et qui produit la foi véritable et l'amour véritable. L'espérance véritable produit la foi véritable et l'amour véritable. Mais Paul ne s'arrête pas là, il remonte aussi un peu le courant, et il continue en se disant, mais d'où vient cette espérance véritable, cette espérance typique? Regardez le verset 5 dans la deuxième partie. « Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. » En d'autres termes, la source de laquelle jaillit l'espérance, qui produit la foi et l'amour, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Et vous avez vu que Paul la qualifie. Vous avez remarqué ? C'est pas juste le message de Dieu, c'est pas juste l'évangile, c'est la parole de la vérité. La parole de la vérité. En résumé, quitte à être un peu lourd, mais je vais le faire, la foi et l'amour chrétien sont authentiques quand elles sont produites par l'espérance authentique que le seul vrai Dieu suscite dans le cœur humain par son évangile authentique. L'évangile, la parole de la vérité, qui est répétée d'ailleurs, regardez au verset 6 dans la deuxième partie, verset 6, ils ont entendu parler, ils ont connu la grâce de Dieu dans la vérité. C'est pas un détail ça, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'entendre parler de l'évangile ou pas, mais la première chose qu'il faut noter là, c'est que la vie chrétienne authentique, dans la foi authentique et dans l'amour authentique, est produite par une vérité qui jaillit de la bouche de Dieu même. Sinon, la foi et l'amour ne pourraient pas exister. Alors, ce n'est pas une surprise pour nous si vous avez vu la qualité typique de Épaphras, je ne sais pas si vous avez déjà croisé ce nom quelque part, mais verset 7, du coup, quelle est la qualité du porteur de l'évangile ? Épaphras, il est, deuxième partie verset 7, pour vous un serviteur fidèle de Christ. Bien sûr, pour que l'or et les paillettes d'or de l'évangile fassent son œuvre dans l'espérance, l'amour et la foi, il faut que celui qui la transporte soit un serviteur fidèle. Qu'est-ce que fait Paul ? Je pense qu'il fait un peu ça dans ce contexte-là. Alors, vous avez remarqué que j'ai choisi une nationalité particulière dans mes marques de voiture. Moi, je suis un néophyte à côté de Paul, il s'y connaît très bien en voiture, Paul, ce Paul-là. Mais simplement, j'ai essayé de réfléchir à une réputation. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne veux pas du tout blesser si des personnes travaillent pour Renault ou Peugeot ici. Mais simplement, quand on voit ces marques-là, on a un a priori, j'ai un a priori de qualité. De qualité. Et quand je vous rassure, j'ai aucune de ces marques. Si, j'ai eu une Opel une fois. Mais quand je suis en voyage, en déplacement, et que j'ai un problème avec ma voiture, je vais d'abord aller chercher chez un concessionnaire de la même marque pour qu'il prenne bien soin de ma voiture, pour être sûr que la qualité de ma voiture continuera à être de la vraie qualité, Deutsche, bien solide, pérenne. En fait, là, on parle de quelque chose de bien moins futile que ça. Paul est en train de leur dire que, et de leur manifester que il est en train, cet évangile qui, verset 6, fait des progrès et porte des fruits dans le monde entier, est le même que celui qui fait des progrès et porte du fruit chez les Colossiens. Ils ont la même qualité, c'est le même contrôle qualité. Et que si Paul lui-même venait à entrer dans cette église, il remarquerait les mêmes caractéristiques de la qualité typique de la vie de Dieu, parce qu'ils ont reçu le même évangile dans la même qualité, des fruits délicieux qui sont constatés. Vous voulez savoir où le royaume de Dieu est en train de progresser dans le monde ? Ne regardez pas d'abord au nombre. Cherchez où l'évangile est fidèlement proclamé. Il produira immanquablement l'espérance, la foi et l'amour authentique du royaume de Dieu. Et on s'imagine que pour les Colossiens, ça devait être rassurant, surtout s'ils étaient en train d'être tentés par des gars qui leur diraient, des espèces de dealers, des dealers de spiritualité, s'ils entendaient Paul leur dire, en fait non, vous avez le label, vous avez la marque qu'il faut, et c'est rassurant. Et c'est rassurant pour nous aussi. Je ne sais pas quel est votre attachement à vos églises, quelles sont vos églises aussi d'origine, quelles sont vos années de foi chrétienne, si vous n'êtes pas encore dans la foi chrétienne. Mais là, on est rassuré. Quand on s'attache à Dieu par la bonne nouvelle de l'Évangile, alors on est sûr d'avoir le label qualité de Dieu même, quel que soit le contexte sociologique, quel que soit le profil de l'Église. Peut-être, avant d'aller plus loin dans la deuxième partie du texte, ça vaut le coup de proposer une réflexion pour les personnes qui, parmi nous, se présenteraient comme non-croyantes, non-chrétiennes, ou juste en recherche, intéressées. Si tel est le cas, si la vie de Dieu, l'espérance de Dieu, la foi véritable, l'amour typique de Dieu, est produit par l'Évangile, on a intérêt à savoir ce que c'est l'Évangile. Alors, sans m'étendre de la même manière que Paul avant, quand, dans la première partie. J'attire juste votre attention et à la méditation, la fin de la lecture de Paul juste avant. Si vous tournez la page, vous regardez à la page au verset 21, voilà une description de l'évangile, de la bonne nouvelle de Dieu pour tous les hommes. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, mal barrées, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair. Une grâce, un cadeau que Dieu nous fait pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. L'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, c'est le fait que alors que nous méritions la mort, Dieu nous donne sa vie. Alors que nous méritions la condamnation, Dieu nous offre son pardon, juste par cadeau gratuit qu'on ne mérite pas. L'évangile est un message suffisant pour croire, et Paul ne s'arrête pas là. Vous remarquez que au verset, quand il commence le verset 9, il dit « voilà pourquoi ». C'est-à-dire qu'il se repose sur ce qu'il vient de dire pour continuer sa logique. Tout simplement parce que l'évangile de Jésus-Christ n'est pas juste suffisant pour croire, c'est-à-dire pour entrer dans la famille de Dieu et dans l'espérance chrétienne, mais aussi pour croître, pour grandir dans l'espérance chrétienne. Et c'est tout le sens de la prière de Paul. Moi, je vais plutôt bien, surtout que demain, je pars en vacances. Je ne sais pas si vous allez bien, si vous allez partir en vacances. L'église de Saint-Lazare va bien. On est reconnaissant de voir ce que Dieu fait à travers tous ces mois et ces quelques semaines d'existence. Et j'ai entendu dire que l'église de Sèvres va bien. Et Colosse était une église qui allait bien. Si vous lisez les quelques premiers versets qu'on vient de lire, les 8 premiers versets, on ne peut que dire que l'église de Colosse allait très bien. Elle était en très bonne santé. C'est ce qui faisait la joie de Paul et de Timothée. Mais alors, question. Pourquoi Paul et Timothée prient pour eux, s'ils vont bien? On pourrait se dire que puisqu'ils vont bien, ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Et pourtant, tout est à bâtir. Maintenant qu'ils ont cru et que Paul et Timothée sont encouragés de ces fruits-là, de ce label qualité, c'est maintenant que ça commence. Regardez la logique, verset 9, on va le lire simplement d'une manière cursive en voyant la logique. Voilà pourquoi, sur la base de ce que nous avons constaté chez vous, voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, c'est-à-dire de ce Dieu qui vous a sauvés dans son Fils Jésus-Christ, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dans quel but? Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est-à-dire du Seigneur Jésus, de ce Jésus par lequel vous avez été sauvés et délivrés, pour lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit, au résultat, hein, toutes sortes d'œuvres bonnes. Et alors on pourrait se demander, qu'est-ce que c'est exactement être en tant que chrétien en train de porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes? Et là, l'original nous aide un petit peu, puisque tout ce qui suit décrit ce que c'est porter des fruits. Littéralement, c'est des participes présents. Littéralement, c'est vous marcherez d'une manière donc digne du Seigneur pour lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et progressant dans la connaissance de Dieu. Donc, un des signes de cette croissance et des fruits qu'on porte, c'est de la croissance dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifié, littéralement, étant fortifié en tout point de vue, par sa puissance glorieuse. C'est-à-dire que les signes caractéristiques, les bons fruits délicieux d'hommes et de femmes qui grandissent en Jésus, ce sont des gens qui sont fortifiés à tout point de vue, pour être toujours avec joie, persévérant et patient. Comment se voient les fruits dans la vie de quelqu'un qui a cru en Jésus et qui maintenant grandit en Jésus? Il persévère dans la foi. Il est patient et avec joie. Et verset 12, et vous exprimerez littéralement, exprimant votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. En d'autres termes, comment est-ce qu'on voit les fruits dans quelqu'un qui a placé sa confiance en Jésus-Christ, qui appartient à Jésus-Christ? Comment est-ce qu'on le voit grandir? En fait, en voyant qu'il est reconnaissant. une marque de fabrique d'un chrétien qui grandit et qui grandit à tous égards, qui porte des fruits délicieux dont il est question là, c'est qu'il est reconnaissant. Il reconnaît l'œuvre de Dieu dans sa vie et il dit merci. C'est le mot le plus courant d'un chrétien qui grandit. Ce que Paul fait comprendre aux Colossiens, c'est que l'évangile n'est pas juste la porte d'entrée dans la vie chrétienne pour se mettre à croire. Il est aussi le moteur quotidien prévu par Dieu pour nous faire croître dans la vie chrétienne. Il ne s'agit pas juste de faire connaissance avec Jésus pour être pardonné par Dieu, il s'agit de grandir dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ pour lui plaire à tout point de vue. C'est intéressant parce que Paul n'ajoute pas de mentions supplémentaires. Il les invite juste à capitaliser sur l'évangile qu'ils ont déjà reçu. Et si vous fouillez un peu, vous verrez les parallèles. Il y a des termes parallèles entre les deux parties de ce texte. Juste, Paul leur dit, ce que vous avez reçu, capitalisez dessus. On pourrait prendre l'exemple simplement d'un maître d'ouvrage qui donne aux ouvriers absolument tout ce qu'il faut pour construire une maison. Et puis, il se présente devant eux et puis il voit les ouvriers assis avec les matériaux tout prêts. Et puis, ils ne font rien. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez tous les matériaux, qu'est-ce que vous faites? Et ils disent, non, mais on a tout ce qu'il faut, là, c'est bon, on a les matériaux. Oui, mais maintenant, il faut bâtir avec les matériaux pour construire la maison. C'est un petit peu ce que Paul leur dit. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans l'Évangile. Pas juste pour être pardonné par Dieu, mais pour grandir en lui, solidement. C'est l'Évangile qu'ils ont reçu, et c'est avec l'Évangile qu'ils vont devoir bâtir. Et au cœur de l'Évangile, il y a Jésus qu'on a célébré, qu'on a chanté avant, au point qu'être rempli de l'Évangile, c'est être rempli de Jésus, le chef tout suffisant. Si vous voulez méditer la suite en voyant le parallèle entre l'Évangile qui est le message suffisant et Jésus qui est le chef suffisant, je vous laisse le faire, c'est délicieux. On arrive à un temps de conclusion et de mise en perspective. L'Évangile, c'est le message prévu par Dieu, suffisant pour croire et aussi pour croître. Et la question principale que nous devons nous poser, c'est que faisons-nous de l'Évangile? Ça, c'est la question typique, logique, à la suite de ce texte. La croissance chrétienne ne s'arrête jamais à cause de la visée. Vous avez vu la visée? Le but, verset 10, le but c'est de marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire entièrement. Dieu est ambitieux pour ce qu'il sauve, il est ambitieux à la hauteur de sa grandeur à lui. Et l'Évangile, c'est le moyen dont il se sert pour produire cette croissance en nous. Alors déjà, quand on nous propose, au-delà de la foi en Jésus crucifié, d'autres christianismes plus, viens ici, on chante mieux, viens ici, le rite est plus puissant, viens ici, on est plus érudit, on peut répondre tranquillement, non merci, j'ai ce qu'il faut. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Ne laissons pas les dealers de fausse croissance nous détourner de la vraie croissance dans l'Évangile. Attention aussi à l'utilisation de ce qu'on connaît de l'Évangile d'une manière stérile. Ou quand on pense qu'on croit dans les grandes lignes et qu'on est arrivé. Typiquement, pour quelqu'un qui a quelques mois ou quelques années de vie chrétienne, ça se traduit par « oui, oui, bon, ça je sais, bon, Jésus est mort pour mes péchés, d'accord, il est ressuscité ensuite, voilà, je suis pardonné, puis si jamais Jésus revient demain, voilà, je suis sauvé, je suis pardonné, je suis OK avec Dieu, maintenant je peux vivre ma vie, je peux passer à autre chose. » Et en fait, non, surtout pas. Il ne faut surtout pas passer à autre chose. Il faut laisser cette bonne nouvelle nous transformer. Notre volonté de grandir en tant que chrétien, est une bonne chose, mais pas sans l'Évangile. Alors, l'évangile est tout suffisant, du coup, il faut l'avoir au cœur de nos vies. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est simplement dans notre quotidien. Est-ce que la bonne nouvelle du Dieu qui nous pardonne en Jésus-Christ d'une manière imméritée impacte notre vie quotidienne? Est-ce qu'on le médite quotidiennement? Bien sûr, je parle des moments où, en lisant notre Bible, en priant quotidiennement, on laisse la parole de Dieu, la parole de la vérité, nous encourager dans l'Évangile. Mais je parle aussi, par exemple, de toutes nos relations amicales, fraternelles, familiales. Lorsqu'on comprend que dans la croix de Jésus-Christ, Dieu me démontre son amour qui façonne mon amour pour ma femme, pour mes enfants, pour mes frères, pour mes sœurs. Quand je vois que cet amour que Dieu a donné en Jésus-Christ, il l'a donné pour des hommes et des femmes qui étaient ennemis, et que je laisse cet amour modeler mon amour pour le plus détestable de mes voisins ou de mes collègues. Lorsque je comprends que le pardon que Dieu m'a offert à la croix de Jésus-Christ n'est pas juste un pardon « je te pardonne à la louche », mais un pardon précis qui, une fois qu'il est offert, n'est pas repris. À quel point l'Évangile, dont le cœur est au pardon, vient modeler mon cœur pour apprendre à pardonner ceux qui m'entourent, sans dire « je pardonne, mais j'oublie pas ». C'est ça, se laisser faire par l'Évangile. C'est ça, grandir dans la connaissance de Jésus. Et on a besoin, comme Paul le prie dans cette deuxième partie, de la puissance de Dieu pour que ça nous transforme et qu'on vive selon la logique de Dieu. Peut-être un dernier exemple de comment l'Évangile impacte nos vies dans notre croissance chrétienne. Lorsqu'on comprend qu'il a fallu que le Fils bien-aimé de Dieu meure à cause de la sainteté, de la pureté et de la justice parfaite de Dieu. Alors je laisse cette justice, cette sainteté, cette perfection de Dieu modeler mon amour pour ceux qu'il aime et ma haine pour les choses qu'il déteste. C'est ça, laisser l'Évangile nous transformer pour grandir. Peut-être dernière chose, et ensuite une adresse avec, pour les personnes qui seraient peut-être en train de se poser des questions sur est-ce que l'Évangile c'est pour moi ici. Soyons d'une manière évidente, comme Épaphras dans ce texte. Si l'Évangile est le message tout suffisant pour croire et pour croître, que le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes qui le disent et qui le vivent fidèlement. Fidèlement. Et on a besoin de la puissance de Dieu pour nous transformer là-dessus. Petite adresse à des personnes qui peut-être chercheraient, réfléchiraient sur la question de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Dieu pour eux. Je ne sais pas, je ne connais pas. Mais en tout cas, si vous avez une attente que vos amis chrétiens, que vos collègues chrétiens portent des fruits de l'Évangile, comme on les a vus, montrent dans leur vie la beauté de l'Évangile, eh bien, c'est une bonne attente. Vous devriez attendre cela d'eux, puisque c'est ce que produit l'Évangile dans une vie. Et si vraiment la vie de Dieu passe par l'écoute, la réception et la foi dans l'Évangile, pourquoi ne pas juste lire l'Évangile? Et je suis sûr qu'ici, il y aurait des personnes qui seraient prêtes à lire l'Évangile avec vous, en un à un, vous aider à le découvrir comme eux l'ont découvert. C'est une question de vie ou de mort. Je vous invite à un temps de prière, de méditation. Pourquoi ne pas regarder dans ce temps de silence et de méditation les versets 9 et suivants, cette prière qu'on pourrait prier pour nous-mêmes. Et puis moi, je conclurai ce moment par aussi la prière. Un moment de silence, méditation. Notre Dieu, notre Père, Dieu vivant, toi notre Créateur, nous voulons te bénir parce que nous voyons encore ce soir combien il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs. Tu nous donnes tout pleinement en Jésus-Christ et tu nous donnes tout pleinement dans l'évangile de Jésus-Christ. Suffisant pour croire, suffisant pour croître. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te demander avec Paul, ensemble, que tu nous donnes d'être remplis toujours plus de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donne-nous, s'il te plaît, de marcher d'une manière digne du Seigneur Jésus, pour lui plaire entièrement. Donne-nous d'avoir des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et de progresser dans la connaissance de Dieu. Donne-nous d'être fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse. Nous en avons besoin, Père, de cette puissance glorieuse, pour être toujours et avec joie persévérants et patients. Pas être des chrétiens en one-off, mais des chrétiens sur le long terme. Et nous te prions que dans ta grâce, tu nous donnes d'exprimer constamment par nos paroles et par nos vies notre reconnaissance envers toi, Père. Toi qui nous as rendus capables de prendre part à l'héritage des saints de ton peuple dans la lumière. C'est pour ta gloire et dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions ces choses-là. Amen.